Bienvenue dans ce beau cadre du Centre de ressources des médias congolais. Je suis Rachel Kitita Ndongo, journaliste à Vox Congo. Nous allons échanger autour du thème les rôles des médias dans la lutte contre les épidémies cas de choléra à Kinshasa. Car vous le savez, le choléra a été détecté à Pakadjuma, c'est dans la commune de Limete précisément. Et comme invité principal, nous avons Emmanuel Rempart, ici devant vous, chef d'émission MSF Belgique, Médecins sans frontières, qui est une ONG internationale qui opère en République démocratique du Congo depuis 1981 et dans presque 70 pays à travers le monde. Ensuite, en dehors de Emmanuel Rempart, il y a à côté Madame Fifi Otudiema. Elle est, elle, infirmière. Elle va nous donner les astuces pour éviter de contracter le choléra. Alors maintenant, je vais donner la parole à Emmanuel Rempart. Monsieur Emmanuel, c'est à vous la parole et nous vous écoutons. Nous écoutons votre exposé sur ce que fait Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, comment vous vous organisez, comment vous assistez finalement ceux qui sont en détresse, ceux qui sont dans le besoin, comment vous arrivez à atteindre les provinces, les milieux les plus reculés en République démocratique du Congo. Vous avez donc la parole.
Dans la lutte contre le choléra, cette maladie contagieuse, cette maladie de main sale, cette maladie hydrique. On parle de l'eau, l'accès à l'eau, une eau contaminée avec le vibrion, et ensuite il y a une transmission interhumaine d'une personne à l'autre également. Donc Médecins sans frontières, on appuie au ministère de la Santé, aux acteurs qui sont à tout moment localement présents, les divisions provinciales de la santé, les équipes des zones de santé, et nous allons jusque là où la population se retrouve, les aires de santé, là où il y a les centres de santé, les postes de santé, etc. Premièrement, nous essayons d'aller main en main avec le ministère de la Santé dans la surveillance. La surveillance. Chaque semaine, l'ensemble des équipes du ministère de la Santé sont censées de récolter les données des maladies, ce qu'on appelle des maladies à potentiel épidémique, les MAPEPI. Le choléra, c'est une maladie à potentiel épidémique. Et depuis des années 60, elle s'est installée, le vibrion cholérique qui cause cette maladie, elle s'est installée dans certaines zones du pays, notamment les zones lacustres. Elle est entrée par Kinshasa, mais sur fond historique, elle s'est installée dans les zones lacustres plus à l'est du pays. C'est là où vous tous, vous avez écouté que le choléra est très souvent présent, cité le long du lac Tanganyika, le lac Kivu. Et nous parlons sans cesse d'un fond endémique, c'est-à-dire dans le temps et dans le lieu, le choléra en tant que maladie avec un potentiel épidémique, il est présent désormais en RDC à l'est, dans les zones lacustres. Et puis parfois, il y a maintenant des flambées épidémiques, c'est-à-dire ponctuelles dans le temps, dans certains lieux, le long des routes, notamment fluviales et autres, on constate qu'il y a des épidémies de choléra, comme nous l'avons constaté au début de l'année dans le Congo central. Tout ce qui est le cluster des zones de santé, Kimpese, Kimpangu, Nsona, etc. Nous avons un cluster actuel en cours dans le Bandundu, le Maindombe, le Kwilu. Il y a un risque que ça puisse également, comme nous sommes à l'approche de la saison de pluie. Alors la pluie, c'est la flotte, c'est l'eau. Si le vibrion s'installe quelque part, avec l'eau, avec la pluie. C'est clair que dans le milieu, dans l'environnement qui est en RDC, avec le peu d'aménagement, le peu d'accès à des sources aménagées avec une eau potable, que davantage la population puisse maintenant être infestée avec le vibrio et que le choléra s'exprime. Donc voilà, il y a un fond endémique à l'Est, il y a un potentiel épidémique, et là où depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je crois, nous tous nous tirons la sonnette d'alarme, c'est que avant le début de la saison de pluie, hier nous avons eu une bonne pluie sur Kinshasa, il y a eu une bonne pluie, je parle d'une pluie météorologique, pas une autre pluie, à Uvira, à l'approche de la saison de pluie, qui est un facteur amplifiant, renforçant, accélérant, nous avons déjà constaté que dans les zones endémiques, le nombre de cas notifiés, dont certains confirmés biologiquement que c'était bien le vibrio, était beaucoup plus important que les années précédentes, et qu'en plus, dans les zones non endémiques, on avait des flambées. Congo central, Bandundu, le Maniema, au jour qu'on est en train de parler, Kindu, Alungoli, Kibombo, Tundakunda. Ben voilà. Donc c'est là où l'ensemble des acteurs a tiré la sonnette d'alarme qu'il faut davantage prioriser. Bien sûr, on est tous d'accord. Je crois qu'on a suivi certaines émissions sur la radio, sur la télévision, où les gens parlent que le fond serait améliorer l'environnement, un meilleur accès à l'eau, tout le travail de développement, tout le travail systémique, bien sûr. Mais à l'heure où nous parlons, face au début de la saison de pluie, sachant que toute la zone endémique est déjà en pic épidémique et qu'il y a des flambées, nous devons prioriser. Et donc, Médecins Sans Frontières, en tant qu'acteurs médical, opérationnel, acteur d'urgence, à côté du ministère de la Santé, essaye maintenant d'intervenir et surtout faciliter pour les cas suspects de choléra qu'ils puissent avoir un traitement dans le temps. Madame l'a parlé, c'est une maladie contagieuse et elle est fulminante. Le vibrio fait que on a une maladie sans fièvre. Elle est affébrile. Donc au contraire des diarrhées sanglantes, le paludisme, etc., le choléra se marque par un syndrome. Il n'y a pas de fièvre. Mais par contre, on vide les intestins. Et donc on va vers une déshydratation plus. Donc effectivement, les gens qui sont dans un plan avancé de déshydratation, ce que nous appelons le plan C, il faut qu'ils puissent avoir les perfusions avec les liquides, et la question c'est de remplir le temps que la personne vide les intestins, mais pas jusqu'à la mort. Si nous pouvons remplir, alors au final, il évacue le vibrio et il sort guéri. Donc c'est une maladie qu'on peut traiter, ça c'est la bonne nouvelle, mais il faut tout un circuit mis en place. Et dans la lutte contre l'épidémie en cours, ça veut dire nous devons mettre en place des points de chlorination. Là où il y a un point d'accès à l'eau, mais il faut que l'eau soit d'une qualité acceptable. Donc oui, il y a tout le travail de développement, mais face et en période d'épidémie, nous allons chlorer là où il y a des points de l'eau. Nous offrons pour les cas qui sont déshydratés, mais pas encore grave, des points de réhydratation par des sels de réhydratation orale, du SRO, des points SRO, sels de réhydratation orale. Les cas qui sont dans un plan de déshydratation déjà plus avancé, nous avons des unités de traitement de choléra qui doivent être là où il y a le plus de patients suspects, confirmés par le choléra. Et puis, nous avons en dernier lieu les centres de traitement de choléra. C'est là où vous avez les mentions de points de chlorination, points SRO, UTC, unité de traitement de choléra, et au final, les centres de traitement de choléra. Et c'est là, je crois, où Médecins Sans Frontières, ensemble avec le ministère de la Santé, peut-être vous avez suivi hier,
après deux semaines où on était face à une baisse du nombre de cas, hier, pour la semaine passée, nous avons passé le cap de 2000 cas suspects, parce qu'on ne peut pas confirmer tous les cas, mais on a passé le cap de 2000 cas notifiés sur le niveau national choléra. C'est sans équivoque par rapport à la même période des années précédentes. Donc je veux bien entrer dans un débat de développement, d'approche systémique. Là, nous devons ensemble prioriser et faire en sorte que les cas soient traités et que nous coupons la chaîne de transmission. Donc, dans les flambées, là où il y a les foyers épidémiques, nous devons traiter, chlorer, réshydrater, amener les gens vers des centres sans que les gens doivent payer avec gratuité, parce que chaque personne qui a le vibrio, il constitue un réservoir pour contaminer d'autres personnes. Et puis nous devons limiter dans l'espace, le temps et le nombre de personnes, la transmission continue. C'est ainsi que nous allons pouvoir couper la chaîne. Donc voilà, MSF est en appui, Médecins Sans Frontières est en appui au ministère de la Santé. On a des moyens, c'est pas non plus sans limite. Donc, face aux plusieurs flambées, plusieurs foyers, nous devons prioriser. Le Congo central, nous sommes intervenus pendant plusieurs semaines. Quand la courbe descend, fort heureusement, ben nous tirons plutôt l'attention de l'ensemble des acteurs. S'il vous plaît, reprenez derrière nous, toujours en appui au ministère de la Santé, pour que nous puissions aller dans les zones qui sont moins accessibles, admettons. Le Congo central, c'est toujours très accessible. C'est 4-5 heures à partir de Kinshasa. Le plus-value des Médecins Sans Frontières, c'est pouvoir intervenir dans les nouveaux flambées, par exemple à Maniema, à l'intérieur de ce qu'on appelait la province orientale, dans les grands centres urbains où nous sommes débordés par le nombre de cas, que ce soit à Uvira, Bukavu, Goma, à l'intérieur du Haut-Lomami, ou encore dans l'ex-Katanga, dans la province de Tanganyika actuellement, et au niveau de Bandundu, Congo central. Je crois que, tout doucement, l'ensemble des partenaires qui peuvent appuyer le ministère de la Santé prennent le relais, et nous avons tous appris, bien sûr, un effort du gouvernement à travers la mise en place d'un plan, un programme national d'élimination. C'est là où je prends votre dernier point, Rachel. Éradiquer, non, le pays, la RDC, s'est doté d'un programme d'éradication du polio, vous avez tous appris. Mais tant qu'on est encore à une charge et une notification importante de la maladie, nous parlons plutôt des programmes de contrôle. On essaye de contrôler dans le temps, dans les lieux, en termes de nombre de personnes, nous essayons de contrôler, d'éliminer, ramener à un certain nombre de cas. Et si nous arrivons à cela, on peut passer à une nouvelle phase, c'est-à-dire un programme d'éradication. On est malheureusement loin de cela en ce qui concerne le choléra en RDC. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous avez certainement bien entendu et bien suivi. C'est une question de vie ou de mort, parce que on peut être concerné aujourd'hui, demain ou après-demain, et on peut aussi, comme je le disais, sauver des vies, nos propres vies, mais également de toutes les personnes que nous connaissons. Alors, je vais commencer par poser moi la première question à Monsieur Emmanuel, c'est de savoir, MSF, donc, il faut expliquer à l'assistance, vous n'avez pas d'hôpitaux ici en RDC, mais s'il faut soigner les malades, vous le faites où et comment?
Alors, MSF, avoir des hôpitaux, non. Nous sommes en appui du ministère de la Santé. Donc, ici, on est en train de parler de la lutte contre le choléra. Les centres de traitement du choléra, les CTC, les unités de traitement de choléra, ça se passe, si possible, au sein des enceintes hospitalières ou centres de santé. Voilà. Mais nous parlons toujours d'un aspect très important, c'est des centres de traitement de choléra. Vu que c'est une maladie contagieuse, Mais il ne faut pas que nous créions un centre de transmission de choléra. Donc dans le mot CTC, il y a l'importance de traitement et sous-jacent, il y a un aspect de isolement. Parce que c'est une maladie contagieuse. Donc il faut un circuit très bien défini, mais ça peut se faire adjacent ou d'une façon bien isolée au sein d'une structure hospitalière ou avoisinant d'un centre de santé. Les points SRO et les points de chlorination, c'est au plus près, en toute proximité, là où la population vague, on espère librement, à ses occupations. Parce que nous voulons offrir un minimum d'accès à une eau potable, chlorée, et si possible, le patient qui montre les premiers symptômes, au lieu de se verser dans un plan avancé de déshydratation, s'il peut avoir accès à un poste de santé ou quelque part dans un village à un point SRO, ben c'est là où les enfants, les vieillards, les mamans puissent déjà prendre le sel de réhydratation, au lieu qu'on les amène tardivement dans des structures de traitement avec un plan avancé de déshydratation. Donc voilà. Et il y a toute une analyse derrière en termes de provenance des cas. D'où viennent les malades? Quand on arrive dans une flambée épidémique, on va investiguer. D'où viennent les malades? Ah, plutôt de telle aire de santé, telle aire de santé. Pourquoi? Ah, plutôt de tel et tel village. Ah, il y a une rivière là-bas. Il y a un point d'eau non protégé. Il faut tout de suite mettre là en place un point de chlorination, en proximité, un point SRO, le circuit clair vers une unité de traitement qui est déjà plus en proximité. Mais là, il faut un personnel, un minimum qualifié. Un minimum qualifié. Pour le traitement des cas, il faut quand même des gens qui maîtrisent définition de cas et comment apporter des soins. Donc, un minimum qualifié.
La première question.
Merci beaucoup. Je suis Joseph De Gaulle. Ma question, j'ai deux questions. Le rôle des médias dans la lutte contre les épidémies, cas de choléra à Kinshasa. Moi, j'estimais avoir devant moi les professionnels de médias qui nous expliquent comment ils ont joué ce rôle en tant que professionnels de médias, quel est leur rôle et nous prouver comment ils ont fait pour propager l'information dans le média et pour informer la population. Ça, c'est ma première préoccupation. Mais curieusement, je vois que des professionnels médicaux ou de santé qui sont devant nous alors que le thème est bien intitulé le rôle de médias. La deuxième question s'adresse à Emmanuel. Au temps où nous sommes, le choléra est en train de quitter le temps épidémique pour le temps endémique. Est-ce qu'il serait possible que cette maladie, tout en sachant qu'on ne mettra pas fin, on ne va pas éradiquer, d'autant plus que la RDC est entourée de eaux, de fleuves, de rivières. Est-ce qu'il y a un mécanisme qu'on pourra mettre en place pour que cette maladie, effectivement, ne soit pas éradiquée, mais au moins maîtrisée?
Merci beaucoup pour les questions. Alors, j'en prends la première parce que je suis journaliste et donc... Même si je ne suis pas panéliste, le rôle des médias dans la lutte contre les épidémies, je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà le rôle dans la lutte contre les épidémies. Et comme je l'ai dit dans ma petite annonce que nous allons finalement donner des astuces pour sauver des vies humaines, c'est déjà ça le rôle des médias. Je n'ai pas été panéliste parce que je suis en même temps modératrice, mais c'est exactement ça notre rôle, réunir les experts, vous réunir vous, parce que ensuite ce magazine ou cet entretien, ce café de presse sera diffusé, et ça c'est notre rôle. Nous allons donc informer les uns et les autres, ceux qui n'ont pas accès à l'information. Donc c'est ça au fait notre rôle. Nous jouons ce pont-là de réunir les experts qui vont donner les arguments, qui vont donner les techniques, comment éviter le choléra et comment soigner ceux qui sont malades par la voix de l'expert qui est au devant jouerons-nous? Et nous, nous ne jouerons que ce rôle d'être le pont, parce que journaliste ne soigne pas, parce que journaliste n'est pas spécialiste, mais journaliste permet d'amener l'information jusque là où elle ne peut arriver. Donc voilà, c'est ça notre rôle et c'est le rôle que nous faisons. Mais en même temps, la place est vraiment accordée aux spécialistes et ceux qui œuvrent dans ce domaine-là. Je vous laisse donc répondre à la deuxième question.
Merci Rachel. Et je me permets quand même, avec ta permission, de revenir sur la première question. Le rôle attendu des médias. Vous avez une déontologie, vous avez une éthique, et nous partageons. Les médicaux aussi, nous avons une éthique. Alors, relayez l'information le plus objectif que possible, le plus précis que possible. Donc il faut croiser ces infos. Je crois que c'est la base des métiers. On a parlé dans l'introduction de Pacajuma. Ben, posons-nous la question, dans quelle mesure amener dans le temps une information sur le choléra à Pacajuma, à Kinshasa, c'était une vieille information ou elle était véritablement récente? Et quel est notre objectif? Informer, créer panique, créer paranoïa, voilà. Et puis bien sûr, nous sommes là, je dirais, là nous sommes ensemble pour donner une visibilité, une voix à ceux qui n'ont pas de voix, à ceux qui ne reçoivent pas assez de visibilité. Donc notamment dans les zones qui sont moins couvertes, mais qui sont réellement frappées par les flambées épidémiques, parlons-en. Mais encore une fois, avec des informations vérifiées. Je crois que, notamment au niveau du ministère de la Santé, dans la suite de certaines tables rondes, points de presse qui ont eu lieu, il y a eu une insistance de dire il faut chercher l'info auprès de la bouche autorisée. On a beaucoup insisté, certains, sur 20 sur 26 provinces sont en épidémie. Attendez d'abord. L'information est quoi ? Que depuis le début de l'année, il y a eu notification des cas de choléra, déjà, sur 20 des 26 provinces. De là à dire qu'actuellement, 20 sur 26 provinces sont en épidémie, c'est une autre notion. Et dans quelle mesure, en tant que responsable, la population en tire quoi comme message? Bref. Votre question sur les zones endémiques amenées vers l'éradication, non. Aujourd'hui, le pays, la RDC, s'est doté d'un plan national d'élimination. Éliminer, ramener, et puis on peut passer à autre chose. Donc nous devons, encore une fois, nous mettons l'accent, il y a des zones où le choléra est endémique et peut connaître des pics épidémiques. Et puis nous avons des zones plutôt à l'ouest et au centre où nous connaissons carrément des foyers, des flambées épidémiques. Nous devons ensemble tout faire pour que l'information arrive précocement dans le temps et que l'ensemble des acteurs médicaux puissent circonscrire dans le temps lieu et personne la flambée en cours. Et ça passe par une bonne information aux personnes, comment éviter la contamination. Je crois que là, on est ensemble dans une véritable information auprès de la population. Éliminer, ça va prendre du temps, ça prend des efforts concertés. Et voilà, faites encore une fois beaucoup d'attention, si je peux suggérer cela, à la distinction entre les zones endémiques qui connaissent des pics et les foyers, les flambées actuelles, tout en mettant l'accent sur, à l'approche de la saison de pluie, comparé aux années précédentes, il y a une réelle problématique, il y a une urgence, nous devons prioriser, et puis sur le reste, systémique développement, bien sûr, il faut continuer à engager le débat et les discussions et le réel engagement.
Merci beaucoup. Le micro derrière.
Alors, Jacques Kalonji, Canal Kin Télévision. La question à Emmanuel. Au fait, vous avez dit que la RDC a un programme de contrôle et d'élimination, mais loin d'un programme d'éradication. En fait, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il faut pour quitter d'un programme de contrôle ou d'élimination vers le programme d'éradication. Et dans le contexte actuel de l'évolution de l'épidémie de choléra, au fait, qu'est-ce qui est préconisé? Il nous faut un programme d'élimination ou un programme d'éradication? Voilà, merci.
Merci. J'ai aussi une préoccupation adressée à M. Emmanuel. C'est Kaza dit pour les comptes de la RTVS1. M. Emmanuel, nous avons dans notre banderole ici évoqué les cas de choléra à Kinshasa, précisément déjà à Pakadjouma, il y a eu déjà quelques cas. Dites-nous, quelle a été votre expérience sur place par rapport à Pakadjouma? Est-ce que vous étiez allé sur terrain? Et comment vous préparez? Comment vous préparez aussi pour venir en aide à la population de Pakadjouma?
Ousmane Kazadi, c'est mon nom. J'ai deux questions. Premièrement, à part la diarrhée, est-ce qu'il y a-t-il d'autres symptômes? Y a-t-il d'autres symptômes de la maladie? Et la deuxième question. Vous avez dit ou vous avez demandé à ce que lorsque la personne est atteinte de la maladie, il faudrait mettre les gants. Le moyen de contamination de la maladie, est-ce que c'est seulement ne pas toucher la personne? Pouvons-nous manger, partager la même assiette avec la personne contaminée? Pouvons-nous respirer au même endroit avec la personne contaminée? Donc, je me répète, à part la diarrhée, y a-t-il d'autres symptômes? Ou encore, quels sont les moyens de contamination de la maladie?
On va prendre la dernière personne pour la dernière série. Et on reviendra à vous pour les questions.
Merci. Moi, c'est Dan Egle Tchingoussa, Radio Shalom Africa. Ma préoccupation est celle, je m'adresse à M. Emmanuel, est-ce qu'il y a-t-il des publications, il y a des rapports auxquels, quand vous avez constaté des maladies par-ci, par-là, sur l'étendue de l'art public, auxquels on peut se procurer, nous, professionnels des médias? Parce qu'on ne saura pas chaque fois venir... s'il y a convocation d'une conférence, mais on devrait se procurer de cela. Nous savons que sur tel site ou au ministère ou à tel endroit, on peut bien avoir le rapport qui nous permettrait de bien divulguer l'information. Et ma seconde préoccupation, je m'adresse à Madame Fifi, est celle de savoir quelles sont les mesures que vous avez préconisées étant professionnel de la santé pour garantir la sécurité de la population. Merci.
Oui, Madame Fifi, on peut...
Avec la maladie de choléra, elle ne fait pas de fièvre ni de maux de tête. Donc, pour remarquer ça, c'est ce maladie.
La deuxième question, c'est la question de monsieur. Comment vous faites pour aider ceux qui sont malades à s'en sortir, c'est ça?
Premièrement, dans mon centre, jusqu'à présent, il y a 0 cas de choléra. Mais nous préparons le gel, le maman pour ça. Je viens de dire premièrement la propriété. Depuis qu'on a constaté qu'il y a des cas... Ici à Kinshasa, on sensibilise le mama, surtout le mama et les jeunes pour ça. On conseille comment se protéger, comment être propre. Donc, aussi bouillir aussi de l'eau, parce que l'eau des robinets aussi, c'est pas propre. Il faut bouillir aussi de l'eau, laver le mer.
Régulièrement.
Oui.
Avec du savon.
Oui.
Monsieur Emmanuel.
Alors, c'est une question super intéressante qui demande beaucoup de temps et il faut vraiment prendre connaissance de ces concepts si, en tant que journaliste, vous souhaitez davantage parler sur tout ce qui est la lutte contre les maladies. Il faut comprendre ces notions de contrôle, élimination, et puis on va droit un jour vers l'éradication. C'est un effort graduel. Alors, nous parlons des concepts de incidence, nouveaux cas par jour, par semaine, dans une zone définie. Alors, contrôler une maladie contagieuse, nous parlons du contrôle ici des maladies contagieuses, les maladies transmissibles. Contrôler, c'est, comme on a dit,
on veut contrôler la propagation, et il y a le concept de temps, lieu et personne. C'est le même principe poussé dans son extrême au niveau de fièvre hémorragique virale genre Ebola, où nous allons renforcer jusqu'à l'extrême tous les principes. Nous ne voulons pas que la maladie qui est désormais confirmée puisse se propager au-delà de ce village, encore plus dans le temps, pour davantage plus de personnes. Nous voulons contrôler. Éliminer, c'est cet effort continu de réduire presque au néant cette incidence. Et l'éradication, c'est, je pourrais dire, l'élimination permanente dans le temps. On n'en parle plus. Tel que, a priori, comme vous le savez, l'éradication du polio sauvage, à un moment, on l'avait atteint et les efforts sont continus. Donc voilà, la RDC, depuis 2014, s'est dotée d'un plan stratégique, multisectoriel, d'élimination du choléra. En bref, ça demande des efforts de plusieurs secteurs. Voilà. Aujourd'hui, on est plus en train de parler de l'importance de contrôler une épidémie en cours. Après, ça demande encore beaucoup plus de temps, mais vraiment, vous êtes des journalistes, documentez-vous et comprenez davantage et posez des questions, faites-vous expliquer ces concepts. Si vous voulez aborder le sujet de la lutte contre la maladie. Alors, Pacajuma. Pacajuma, qu'est-ce que nous avons fait? Et là, j'ai dû prendre quand même, pour ne pas parler juste dans le vide. Nous avons apporté un support au ministère de la Santé au mois de juin-juillet, pendant quelques semaines. J'insiste sur le support. Il y a eu à ce moment notification des cas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait concrètement, tant à Kokolo et à Pacajuma? Ben, c'est briefer le personnel de santé présent, définition des cas. Un circuit à mettre en place dans une unité de traitement de choléra. Comment sensibiliser avec les relais communautaires. Et nous avons laissé une donation des intrants à Pacajuma, très précis, pour la prise en charge de 50 cas. Voilà. Et je crois la même chose nous avons fait également à Kokolo. À Pacajuma, nous avons donc laissé cette donation et nous avons aussi mis en place concrètement un petit unité de traitement de choléra. Nous avons remarqué qu'entre la semaine 21 et 24 épidémiologique, c'est cette période. Donc voilà encore un autre concept, si vous voulez parler sur la lutte contre les maladies. On a les mois calendriers, mais il faut maîtriser que, par exemple, le professeur Dicteur Didier Bompang va aussi vous parler des semaines épidémiologiques. Alors, de la semaine 21 à 24, nous étions sur terrain dans un cadre de support, Kokolo, Pacajuma, et nous avons vu que le nombre de cas était en train de baisser. Qu'il y a de temps en temps des cas sporadiques notifiés, bien sûr, mais si nous voulons jouer notre rôle, je crois, en tant que médias, encore une fois, nous devons être précis, objectifs. On parle de quoi au juste? Combien de cas? Qu'est-ce qui est fait? Alors oui, à Pacajuma, la notification sporadique des cas continue. À ce jour-ci, est-ce que nous sommes en flambée épidémique à Pacajuma? À ce que je sache, et sauf abus de ma part, on n'est pas sur la définition d'une épidémie qui pourrait être augmentation, doublement des cas notifiés deux, trois semaines consécutives, avec là-dedans confirmation biologique. Donc il faut être précis. Une épidémie, c'est ça. Atteindre un seuil épidémique, c'est ça. Doublement, augmentation sur deux, trois semaines consécutives, avec en plus confirmation biologique à l'Institut National de Recherche Biomédicale, à l'INRB. Voilà. J'espère avoir été assez précis. Ensuite, il y avait une autre question.
Le micro est... Oui, Madame Janine.
Oui, Janine Kalinga, RTNC1. Je reviens à Madame Fifi. Sur son insistance, vous dites qu'il est conseillé d'utiliser le savon liquide à la place du savon dur, comme on dit. Pourquoi cette insistance ou cette exigence? Est-ce le même cas pour le savon de bain? Pouvons-nous utiliser le même savon de bain liquide ou quoi avec une personne contaminée? Et puis vous dites que l'unique symptôme des contaminations quand quelqu'un est déjà contaminé par le choléra, c'est la diarrhée. Cette diarrhée se manifeste après combien de temps de contamination? Et est-ce que la personne, avant de commencer à couler ou de faire la diarrhée, une personne contaminée peut déjà à cette étape-là contaminer quelqu'un d'autre? Et puis je reviens à Monsieur Emmanuel pour dire que j'ai craint que le contrôle dont vous parlez pour les cas du choléra puisse vous échapper un jour en RDC, étant donné que tous les facteurs amplificateurs des contaminations se retrouvent en RDC. Le manque d'eau potable, la pluie, il y a souvent des fortes pluies, le manque d'hygiène, c'est une culture vraiment que beaucoup de Congolais ne respectent pas. La salubrité, tout ça. Ne craignez-vous pas que la situation du contrôle puisse vous échapper un jour en RDC? Merci.
Vous pouvez passer le micro derrière, par mademoiselle. Derrière.
Nous sommes en français, mais nous sommes en français. Pour na komi batela na bokono ya choléra ezala mikolo te pe bana mike to sengeli ko sala ni pour na komi batela na yango. Et puis ceux qui to beli maladi wana ya choléra ki sinini ya munganga to sengeli boko mela pote o kamala mu pe esika ni to koki boko zo soin wana na hôpital nini.
Merci beaucoup madame. Oui monsieur Philippe.
Merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais dire à quelle année on a commencé à parler de choléra. Et deuxièmement, toujours à M. Emmanuel, et l'environnement de l'Afrique, moi je parle de l'Afrique d'une manière générale. Au début des années 80, 70, et souvent quand on grandissait, on ne parlait pas de choléra. Et pourquoi soudain, vers les années 90, 2000, qu'on commence à insister concernant les choléras. Qu'est-ce qui est vraiment à la base de tout ça? Est-ce que c'est le changement climatique? C'est l'environnement? Parce que nous autres, nous avons eu le temps d'étudier à l'internat. Il arrivait des fois, on peut prendre les eaux de pluie. On consomme ça, et sans pour autant être contaminé. Et vous pouvez faire aussi un tour vers la forêt, où il y a des flaques d'eau, on appelle souvent les étangs, mais bien aménagés. Et vous consommez cette eau, mais vous n'êtes pas contaminé. Et pourquoi ces derniers temps, les gens sont souvent contaminés, même dans des villages? C'est ça mes deux préoccupations. Merci.
Oui, mademoiselle, le micro.
Merci, c'est Christian Gwala pour les comptes de CBS. Ma question s'adresse à Monsieur Emmanuel. Monsieur, vous avez parlé de la facilitation du traitement à toutes les victimes. J'aimerais juste savoir si tous les patients recevront un traitement gratuit offert par votre structure. Juste ça.
Merci beaucoup pour vos questions. Monsieur Emma, oui, madame. On va vous prendre dans l'autre série, le temps pour eux de répondre. On a tout le temps pour répondre à vos questions. Ma question n'a pas été répondue. Laquelle?
Celle de savoir. Est-ce qu'il y a-t-il des rapports? Il y a des rapports qui sont publiés après chaque traitement, après chaque sépanalyse.
Pour voir l'évaluation finalement. Oui. D'accord. Merci.
Si.
Monsieur Emmanuel, on peut commencer par la dernière.
Oui, tout à fait. Tout en s'excusant d'avoir omis
votre
dans la plage précédente votre question. Ne prenez-les pas comme une offense ciblée. Donc, bien évidemment, chaque intervention est capitalisée, chaque évaluation sur terrain est capitalisée, et la surveillance que notamment le projet du pôle d'urgence Congo en renforcement à la surveillance épidémiologique que le gouvernement à travers le ministère de la Santé a mis en place, s'est capitalisé et s'est partagé, notamment avec nos interlocuteurs privilégiés au niveau ministère de la Santé. Voilà. Et nous avons des versions externes que nous partageons un peu plus largement. Donc voilà. Après, je crois... nous sommes ici dans un système étatique, donc n'hésitez pas de vous adresser au programme national d'élimination avec qui nous partageons, avec qui on se coordonne bien évidemment. Et donc toutes les informations complémentaires, s'il y en a, sont partagées, capitalisées à ce niveau, et le programme national a un CITREP hebdomadaire. C'est sur base de ça qu'elle fait d'ailleurs, je crois, son point hebdomadaire. Donc voilà. Après, s'il y a des questions précises en termes de partage ou comment on pouvoir, sans souci, est tout à fait disponible à la fin de cette café presse. La jeune dame, je m'excuse, j'ai oublié votre nom. Bien évidemment, si nous parlons de la lutte contre une maladie contagieuse, l'objectif principal, c'est de réduire la mortalité, la létalité liée au choléra. C'est ça, nous parlons de cette priorité dans les structures. Donc, la gratuité dans la lutte contre une maladie transmissible, bien évidemment, et j'insiste, pour Médecins Sans Frontières, la gratuité des soins, ne pas mettre le moindre barrière financière, non. Quand nous parlons d'une urgence, et je crois qu'ici, il y a eu le courage de décréter une urgence médicale, on est même allé au point de l'appeler une urgence médicale humanitaire, ben oui, la gratuité est un des principes de base. J'insiste là-dessus. À chaque responsable, sa responsabilité. Nous sommes ici en train de parler d'une épidémie, des flambées épidémiques, dans certaines zones sur un fond endémique. Alors il y a des acteurs de développement, il y a un État souverain qui a des moyens. Certes, pour un pays continent, il faut y aller en palier. Donc bien évidemment, les bases seraient de pouvoir assurer de l'eau et un assainissement du milieu qui convient à toute l'étendue sur le territoire congolais, qui partage tant de milliers de kilomètres de frontières avec d'autres pays. Encore une difficulté en plus pour l'ensemble de sa population. Alors ça, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, en tant qu'acteur médical opérationnel d'urgence, nous parlons face à des flambées épidémiques sur fond endémique ou des foyers épidémiques. Nous devons réduire au maximum la létalité et nous devons contrôler. Est-ce que ça peut nous échapper? Mais je crois le signal, la sonnette d'alarme tirée que avant le début de la saison de pluie, nous sommes dans une situation incomparable, au moins aux 4-5 ans précédentes, dit tout. Et je crois, Médecins Sans Frontières est très clair et très honnête que nous ne pouvons pas être partout. Et c'est pourquoi nous disons au Congo central, quand le nombre de cas diminue, que les autres se mobilisent, mettent leurs mains à la pâte et prennent la relève pour que nous puissions aller réduire, contrôler, couper la transmission dans les nouveaux foyers. Maniema par exemple, et que nous puissions maintenir nos efforts, mais nous sommes presque débordés, voire débordés, aujourd'hui à Massissi, nous sommes débordés. On est en train de renforcer de tous les côtés. Depuis quelques jours, le nombre de cas notifiés à Massissi, ça dépasse la capacité en termes de contingence qu'on avait mis en place. Ben, l'unité de traitement de choléra à l'hôpital général de référence de Massissi, elle est débordée. Donc nous devons créer des structures supplémentaires. Nous devons mettre en place toute la chaîne pour couper la transmission et éviter qu'il y ait davantage de nouveaux cas. On ne va pas y arriver demain. Donc, est-ce que le contrôle un jour peut nous échapper si nous priorisons pas nos actions, s'il n'y a pas davantage d'acteurs qui se mobilisent dans la priorité de contrôler, et puis derrière, il faut que ce plan d'élimination multisectorielle avec toutes les activités de prévention, d'assainissement, d'apport en eau, puisse devenir une réalité. Et puis oui, ça va prendre du temps, bien évidemment.
L'année où on a découvert finalement que le choléra existait en RDC, ça remonte à peu près, ou dans le monde, si vous avez une idée globale sur l'apparition de l'épidémie.
Très brièvement, ce n'est pas une maladie qui date d'hier. Et d'ailleurs, la base de tout ce qui est épidémiologie en tant que science, c'est basé sur une description des épidémies de choléra à Londres, au tout début des années 1800. Donc c'est une vieille maladie contagieuse. Son Excellence le ministre de la Santé, le docteur Ilunga, dans son entretien accordé à la chaîne RTNC il y a presque deux semaines, vous a expliqué l'historique, comment le choléra est entré dans le pays dans les années 60-70. Et puis, je viens encore une fois de vous confirmer que les descriptions par des scientifiques montrent que le vibrion s'est installé dans la région des lacs, les régions lacustres, parce que le vibrion cherche un environnement où il se plaît. On parle d'un eau avec un pH spécifique. On parle d'autres facteurs environnementaux présents. On le sait, c'est décrit, c'est documenté. Et puis malheureusement, il s'installe aussi, notamment en marge des saisons de pluie, dans d'autres zones, mais qui rejoignent quand même les voies de commerce, les voies de transport, le long, les axes fluviales, les axes routiers. D'où l'importance de couper la transmission. Encore une fois, en tant que journaliste, nous revenons à la thème d'aujourd'hui. Si nous voulons jouer notre rôle, je crois que chaque professionnel doit se documenter. Il a ce devoir afin de relayer une information avec précision, en toute objectivité si possible.
Madame Fifi,
la bandine à Yasser.
Alobi, oui. Union sur le bina français. Au résumé, les angona lingala, parce que et vous savez que ce programme sera diffusé également à la radio. Ça tombe bien parce que Ebelepe va kolandabiso na radio, na Bukavu, na Goma, na Kinshasa, na Bakongo, un peu partout. Baope baokaka français, te ou expliquer bango limbola bango na ensemble choléra et zanini, bazwa kangondenge nini, ko éviter yango comment, et puis ce que osu yango il faut que ça l'anime.
Oui, choléra est maladie ya maboko salité. Maladie ya salité. Mingi ezwa makana salité bisika batu bafandi. Ceux qui ont remarqué que mutuaza na choléra, to remarqué on a nini na diarrhée. Parce que ceux qui mutuaza li diarrhée, ata mukolo moko, ata mukolo diarrhée anormal, ata ya alimentaire, ceux qui mutuaza li diarrhée et lembisa. Et là on y est sala rakia et lembisa. Ils ont de peur ko zanga ya mai oye bimi na nzoto ya mutu. Donc tant ko mai bimi na nzoto ya mutu wana et lembisa. Ko choléra eza maladie moko epesa ba mutu diarrhée makasi yango esenga ke soki ba muto abandi kolera et que ba remarquer yango to ba memake na centre to izola ka muto po nani to chaka esika na ye moko po nani po kolera eza maladi oyo epesamaka na muto epesamaka na ndenge nini epesamaka na mupepe epesamaka ekozala ndindi amateli muto aza na kolera to amateli salite o muto aza na kolera asali eke aye komatela yo eza facile ozwa yango yango ntango tozola bango totiaka bango na chambre na bango moko eza mpo tolandela kaka minganga ata fami bakoki kokota te apart minganga mpe munganga ava kota ifozala protege avosimba ye na baga
tiko mama fifi akomela papa verine te mpo akanga yango
ekokangama te ata ameli papa verine ekokangama te donc ekoma ata mosusu chaque après 5 minutes asali yango chaque après 5 minutes asali yango yango ememaka na liwana ndenge nini mpo ntango moto azobimisa kantité ya mai ebele ntango moto aobimisa yango akolima yango traitement na bango ezalaka mingi mingi perfusion mais soki baremarke yango ne bandeli yango alobaki ke okopesa ye mai juste mai yo ntango azomela mai ebele maliga aoperdre yango mais ntango aorecupere na komela mai epesaka ye mwa makasi mais bozwa asosie yango na antibiotique ya makasi
estceke moto abandi kolera akoki mpe kokende na eglize to basambeleli ye ebandi kaka yango moko esili mpe yango moko
koprie eza nango mabe te koprie eza bien mais nzambe apesa mpe don na minganga mpo bayeba ndeni ya kosoigne bamaladi wana
encore une fois la précision dans l'information est trop importante et je crois le temps que si vérifié qu'il faut maintenant faire la distinction entre les types de savons retenant surtout l'importance quand on va informer la population, relayer des informations, des mesures de prévention de base, le lavage de mains, l'utilisation de savon. Et puis s'il y a maintenant des arguments très précis, scientifiques, alors on les partage. Mais sinon, on ne va pas s'embrouiller la tête davantage. Il faut qu'on puisse laver les mains, parce que c'est une maladie des mains sales. Donc il faut se laver les mains avec de l'eau propre. Donc on peut bouillir l'eau. Si on pense que l'eau est sale, on peut le bouillir. Et on fait le revenir et on lave les mains. Et puis, juste, je vous partage comme petite histoire pour sortir. Vous connaissez le professeur Muyembe? Le professeur, docteur, voilà. De l'INRB, le directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale. C'est quelqu'un qui a survécu, qui quitte 96, Ebola, fièvre hémorragique virale. L'histoire se veut, au contraire de tout autre personnel médical malheureusement succombé dans la lutte contre cette maladie autant contagieuse, qu'est-ce qui lui a sauvé ? Qu'il avait, à travers la bonne éducation, dans les années 60-70, auxquelles vous avez fait référence, il avait toujours un savon sur lui. Et il avait toujours ce réflexe entre chaque acte de se laver les mains. Donc, restons sur les bases, au lieu de compliquer les histoires, de s'embrouiller la tête. Maladie des mains sales, maladie contagieuse. Donc, si nous pouvons déjà couper dans notre foyer une transmission éventuelle, faisons sûr qu'on a de l'eau potable, lavons-nous les mains, donnons les conseils à ceux qui sont au fin fond de la brousse, qu'ils puissent bouillir. Et puis le savon, oui, la distribution de savon, c'est un des trucs de base. Voilà, merci beaucoup.
Nous vous disons merci beaucoup d'être venus participer si nombreux à ce café de presse, amener l'information pour les journalistes, donner la vraie information et pour ceux qui nous viennent du milieu universitaire, des maisons également, donner l'information pour éviter que les autres soient contaminés. Essayons d'éviter au maximum la propagation de l'épidémie à Kinshasa. Merci beaucoup aux panélistes, très sincèrement, au nom de l'organisation d'Internews. Et nous vous retrouvons très prochainement pour un autre café de presse. Merci beaucoup à la technique et à la disponibilité de Monsieur Emmanuel. Vous avez bien voulu, comment dire, sucrer de votre temps de travail pour participer à ce café de presse.